Vous êtes bien sûr Radio Prune en compagnie d'Anna et Sylvia et leur émission Au fil des sons, tous les deuxièmes jeudis de chaque mois de 13h à 14h. L'idée de l'émission Au fil des sons est une conséquence de la crise sanitaire que nous avons connue durant cette période de confinement. Nous avons tous pu observer une diminution, voire une suppression des bruits extérieurs tels que ceux de la circulation automobile, des divers travaux urbains, du trafic aérien pour n'en citer que quelques-uns. Cela nous a permis de redécouvrir, de savourer et de se concentrer sur des bruits et des sons plus discrets que l'on avait pu occulter comme ceux issus de la nature environnante qui a alors repris ses droits au milieu de ces temps de silence devenus si rares dans le tourbillon tonitruant du XXIe siècle. Après le micro-trottoir du mois qui débute l'émission, Anna et Sylvia interrogent les sons et les bruits naturels ou urbains afin de les mettre en perspective avec des musiques venant de tout horizon. Ensuite, les musiciens ou les partenaires culturels et artistiques de notre région s'expriment sur leurs ressentis face au contexte sanitaire atypique qu'ils traversent et évoquent leurs adaptations et solutions pour continuer à faire vivre la culture. La rubrique Regard Pluriel est l'occasion pour leurs invités surprises d'échanger sur les rappeurs à la musique et au son. Et pour conclure, Anna et Sylvia vous présentent leur coup de cœur du mois.
Bonjour Anna.
Bonjour Sylvia.
Nous sommes ensemble pendant une heure dans Au fil des sons, l'émission de Prune qui nous éclaire sur les sons et les bruits qui nous entourent.
Ce mois-ci, dans Au fil des sons, nous nous consacrons en partie aux sons issus de l'univers des insectes.
Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Michel Dupas, programmateur musique à Stéréolux à Nantes depuis sa création à l'automne 2011 et également programmateur du Printemps de Bourges et directeur artistique de ce festival depuis 2015.
Également, nos invités surprises vous ont préparé de courtes chroniques portant sur les bienfaits de la musique, le rappeur Freeze Corleone et la musique comme tribune pour dénoncer.
Au fil des sons, c'est donc parti avec notre micro-trottoir de février 2021 qui, cette fois-ci, enregistré à Molévrier, patrie de notre ancien maire Jean-Marc Ayrault, également Premier ministre de mai 2012 à mars 2014 sous la présidence de François Hollande.
Capture de voix dans Au fil des sons.
Que représente la musique pour vous ?
La musique, c'est... ça permet de... Ça procure de la joie, du bonheur, de la bonne humeur.
Alors la musique pour moi représente une forme de bien-être dès le matin au réveil.
Ça représente la joie, la pêche, voilà.
Ben, pour moi la musique c'est exprimer ce qu'on a dans son cœur, c'est la liberté quoi.
Quelle place la musique tient-elle dans votre vie ?
Ben, la musique occupe une première place parce que j'ai débuté en jouant de la guitare et puis après je me suis mis à la batterie pour finir avec un orgue.
Alors, j'aime bien écouter la musique quand je sors du travail dans ma voiture. Voilà, c'est-à-dire que la journée est finie, que le travail voilà, est terminé et que ça permet de passer à autre chose. Ouais. C'est un sas de décompression.
Je l'écoute matin, midi et soir, au coucher, tout le temps.
Je l'écoute souvent soir, l'après-midi. Je l'écoute à peu près tout le temps.
Donnez-nous votre définition de la musique.
La joie, voilà la joie.
La musique est une forme de relaxation.
La joie, la liberté.
La musique, ça va... Ça permet de se détendre, ça procure de la joie.
Si vous aviez à fredonner un air de musique, quel serait-il ?
Ça serait Alléluia de Leonard Cohen. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia. There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?
L'été indien de Joe Dassin.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Alain Bashung, La nuit je mens.
La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
Séance de Camélia Jordana.
Atmosphère. Est-ce que j'ai bien entendu ? Atmosphère sonore ?
Pour cette émission, on a choisi de vous parler du chant des insectes dans des cadres fort différents, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, en découvrant ces diverses captations auxquelles on a associé une musique illustrant le choix de cet univers bucolique. Cette première captation retrace un bon souvenir qui remonte à l'été 2019, lorsqu'il était si facile d'aller se promener un peu loin de la maison. Nous étions en Toscane, sur les hauteurs de Firenze, à Fiesole, et nous nous promenions dans les ruines de ce site archéologique qui comprend un théâtre romain, des thermes, un temple étrusco-romain et un musée archéologique. Ces vestiges datent du 3e et du 2e siècle avant notre ère. Chaque été, dans les ruines du théâtre, on peut apprécier des représentations théâtrales, des concerts d'hiver ou des projections cinématographiques au son des cigales en arrière-plan, avec une très belle vue sur la campagne florentine au nord de la
ville. Pierre Péchin aurait pu y venir et déclamer sa version actualisée de La cigale et la fourmi du grand fabuliste français Jean de La Fontaine.
Dans La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu.
Excuse-moi, c'est pas ça du tout. La cigale, la fourmi, c'est autre chose. La cigale, c'est une petite connerie qui est grosse comme ça. Et un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien à bouffer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va un petit peu plus loin à côté de chez lui et frappe à la porte et il va trouver ce qu'on appelle la fourmi, qui est encore une plus petite connerie. qui est grosse comme ça, et frappe la porte. S'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'est-ce que tu veux? Excuse-moi de te déranger, je suis juste une pauvre petite connerie de rien du tout, j'ai rien à bouffer. Tu peux prêter un peu de pognon, s'il vous plaît? Folcon, tu es une pauvre. Folcon, tire-toi. Eh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je demande juste. Folcon, qu'est-ce que tu faisais l'été dernier? Qu'est-ce que tu faisais, hein, pendant que moi j'ai travaillé? Hein, qu'est-ce que tu faisais? Tu chantais, ah, mais là, ouais, de l'anmanesse comme ça? Rien du tout, et puis tu as gagné le pognon comme ça de l'année dernière, tu as acheté un 5000 Peugeot. Hein, le 5000 Peugeot avec les décalcomanies tout partout. Il y avait un Donald, Big John, Capitaine Haddock, Tinte Milo, Marsupilami, la crédit avec Rocket au rétroviseur.
Vous venez d'entendre Pierre Péchin, qui nous a quittés en 2018, célèbre humoriste français, connu pour ses canulars téléphoniques sur la radio d'Europe 1.
Dans un pays de tous les temps, vit la plus belle des abeilles. Que l'on ait vu depuis longtemps s'envoler à travers le ciel.
Cette petite abeille porte le nom de Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya, qui n'a vraiment peur de rien, qui suit toujours son chemin. Venez donc découvrir la malicieuse Maya.
Ah, l'univers de l'enfance, tout un univers de rêverie qui nous manque souvent. Cela fait du bien de se replonger dans cette douceur.
Maya l'abeille, héroïne du célèbre dessin animé éponyme, nous renvoie à la télévision des années 80 avec une première diffusion en 1978. Elle fut sa première apparition avec l'écrivain allemand Waldemar Bancel en 1912, créateur de cette abeille au cœur d'or qui fait le bien autour d'elle dans un album illustré pour la jeunesse. Au cours du XXe siècle, le livre est adapté sur plusieurs supports et devient une franchise commerciale. En 1975, une série animée pour la télévision voit le jour avec une production germano-nippone. Ah, nous étions fans, Anna et moi, de cette abeille non-conformiste aventurière qui avait quitté la ruche pour vivre dans la prairie en toute liberté. En fait, elle ne souhaitait pas rester confinée et suivre la vie réglementée de la ruche. Aujourd'hui, on aspire tous et toutes à être des petites Mayas. Sa curiosité, son enthousiasme et sa volonté de vouloir toujours aider les autres insectes nous plaisaient bien. Pour elle, rien ne vaut la liberté avec des amis, toujours prêts à l'aider lorsqu'elle se retrouve en danger. J'avais envie de lui ressembler finalement.
Et tu y es parvenue, Sylvia, avec tes choix professionnels.
Ah, c'est un bon compliment, Anna. Je te remercie.
Cette troisième captation est suivie du court extrait appelé « Le vol du bourdon » de Rimsky-Korsakov dans la version de Jean-François Durez au vibraphone, accompagné de l'harmonie de Saint-Amand-les-Eaux.
À l'écoute de ce morceau, on imagine très bien le bourdon gorgé de toutes les fleurs qu'il a butinées, qui en cette fin de journée tente de rentrer chez lui ivre de tout ce nectar qu'il a maintenant en lui.
On comprend aussi l'agacement que le bourdon peut procurer lorsqu'on l'entend, et parfois la peur si on le confond avec d'autres insectes volants plus dangereux, comme le frelon par exemple. Mais ne nous méprenons pas, le bourdon, insecte dodu par excellence, est bienfaisant. Et comme la petite Maya, il ne vous veut aucun mal.
Je suis cette mouche, posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche, posée là sur sa bouche. Je n'avais Dieu que pour elle, mais elle voulait que je me tire à tire d'elle sur ses lèvres. Moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'envoler. Sur ses lèvres, moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. Mais que fait donc cette mouche posez-la sur ma bouche. Demanda-t-elle au peintre qui lui dit comment c'est joli de voir cette mouche dessinée sur ta bouche. Moi j'aurais tout donné, oui tout donné, pour pouvoir l'embrasser sur ses lèvres. J'aurais déposé le coude des couteaux baissés.
Paul Naref s'amuse avec les différents sens du mot, entre l'insecte qui agace et, dans le domaine esthétique, l'imitation d'un névus situé le plus fréquemment sur un côté supérieur de la bouche ou au niveau du décolleté.
Roi de la pop et de la provoque dans les années 70, Michel Paul Naref demeure une icône adorée ou détestée. Artiste atypique, il aime autant plaire que déranger. À cette époque, ses concerts tournent bien souvent à l'hystérie, au point que les organisateurs d'un concert donné à Louvain, en Belgique, ont dû souscrire une assurance un peu spéciale, de 250 000 euros tout de même, afin de protéger ses cheveux, vaste toison d'or qui rivalisait avec celle des plus beaux moutons de Jason. Il faut rappeler à nos jeunes auditeurs et auditrices que cet artiste avait une chevelure semblable à celle de Robert Plant du groupe de Led Zeppelin, et des étudiants belges menaçaient alors de lui raser le crâne. Autre exemple de son originalité poussée à l'extrême, c'est quand il a voulu contrer les rumeurs portant sur sa sexualité, en rendant son cul célèbre en l'affichant dans les rues de Paris en 1972 pour annoncer son concert à l'Olympia. Alors soulignons qu'il a été condamné pour attentat à la pudeur et à 60 000 francs d'amende, soit environ 9 000 euros. Et comme il aime le dire, son cul était devenu célèbre grâce à ce coup marketing révolutionnaire. Peu de temps après, ruiné et victime de ses fesses, il s'exile aux États-Unis en Californie. La France lui manque et écrit en 1977 « Lettre à France », une magnifique chanson d'amour écrite par Jean-Loup Dabati. On vous laisse apprécier.
Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin.
Interview d'Au fil des sons.
Bonjour Jean-Michel Dupin, merci d'avoir accepté notre invitation à Au fil des sons sur Prune 92 FM. Nous tenons à préciser à nos chères auditrices et auditeurs que cette interview a été enregistrée le mardi 2 février 2021 par téléphone.
Bonjour Jean-Michel Dupin.
Bonjour.
Jean-Michel Dupin, vous êtes programmateur musique à Stéréolux à Nantes depuis sa création à l'automne 2011 et également programmateur du Printemps de Bourges et directeur artistique de ce festival depuis 2015. En quoi consiste le travail au quotidien d'un programmateur de salle ou de festival ?
C'est une vaste question, ça. Il consiste évidemment à choisir les artistes qui vont s'y produire, à la fois dans la salle et dans un festival. Alors, bien souvent, le travail de programmateur, il n'est pas associé uniquement à de la programmation et à de l'artistique. mais il va de pair avec tout un travail de production de ces spectacles. Le boulot unique de programmateur, il existe dans quelques festivals ou quelques lieux, mais maintenant, voilà, ça reste des cas un peu à part et que la majorité des programmateurs programment, mais sont également des chargés de production. Donc on écoute, on choisit les artistes, donc il faut quand même une certaine culture et curiosité musicale. Mais derrière, il y a voilà, la mise en place des budgets prévisionnels, des tarifs de spectacle, de lancer la production technique en lien avec la com, voilà, et puis ensuite de faire, de réaliser et de tenir un budget. Le travail de programmateur ne s'arrête pas qu'à l'artistique, c'est une partie de son travail, mais autour, il y a tout un travail de production et administratif.
Bien. Et donc, vous allez à la rencontre des artistes, quelquefois, en vous rendant directement...
Alors oui, effectivement, on va voir le plus de concerts possible, on écoute le plus de choses possible, on va dans quelques grands festivals, enfin, en tout cas, on allait dans quelques
oui.
festivals de découverte, que ce soit en France ou en Europe, pour essayer de repérer des jeunes artistes. Voilà, effectivement, c'est quand même une partie importante du travail aussi.
Alors, Stéréolux, salle nantaise au cœur de l'île de Nantes, a vu le jour grâce à l'association Songo, association qui a géré le projet artistique et culturel de la salle L'Olympique, place Jean Massé à Nantes, dans le quartier du Bas-Champenay, de 1995 à mai 2011, date à laquelle cette salle a fermé pour rénovation jusqu'en 2013, pour réouvrir sous le nom de Fabrique Champenay Bellevue. Cette salle fait maintenant partie du même réseau que Stéréolux. Concrètement, que signifie faire partie de ce réseau La Fabrique, laboratoire artistique, et quels en sont les atouts?
Alors, les Fabriques, effectivement, c'est une appellation donnée par la ville de Nantes. Il y en a dans plusieurs quartiers. Donc, nous, on fait partie de celle de l'île de Nantes, qui regroupe APO 33, MIR, Trampolino et Stéréolux. Et il y en a dans chacun des quartiers. Il y en a à Audervalière, il y en a au Breil et tout. Et ce sont, alors celle de l'île de Nantes, elle est un peu particulière puisque évidemment il y a un gros lieu de diffusion qui est Stéréolux et puis un lieu de ressources important aussi qui est Trampolino. Donc ça, c'est plutôt effectivement, on va dire une volonté politique et aussi sans doute, enfin sans aucune amertume et tout, un peu de com' de la ville de Nantes, qui fait que le réseau Fabrique, voilà, c'était un peu d'essayer de regrouper tous les acteurs culturels nantais qui font à la fois de la création, puisque les artistes sont partie prenante de ces fabriques, sont à la fois lieu de ressources et d'échanges et de transmission, et à la fois lieu de diffusion. Donc l'idée, effectivement, de faire partie de ce genre de réseau, c'est de pouvoir... échanger et puis enrichir. Chaque projet peut s'enrichir de l'autre. Voilà.
Donc c'est se nourrir finalement les uns les autres d'une certaine
oui,
manière.
Oui, même si sur le fond il y a aussi tellement de disparités entre toutes les structures que c'est pas toujours simple, effectivement. Mais la réunion sur le papier qui paraît toujours effectivement assez brillante, qui est toujours intéressante. Les lieux sont tellement différents, les structures tellement différentes et les niveaux d'artistes aussi vraiment différents, puisque ça regroupe tout, hein. Il y a du théâtre, de la danse, de la musique, que les liens ne sont pas aussi simples que ça en réalité.
D'accord. La diffusion des artistes locaux et locaux constitue l'une des priorités de Stéréolux. Et par ailleurs, Stéréolux gère plusieurs dispositifs de soutien et de promotion des scènes nantaises et régionales. Vous annonciez sur Tohu Bohu du 19 mai 2015, ça remonte un peu, je vous cite, « tourner à environ 235 groupes ou artistes par an, dont 52 artistes régionaux en 2014 », chiffre très important. À l'heure où nous vivons une crise sanitaire sans précédent, comment vous, à Stéréolux, arrivez-vous à poursuivre votre activité alors que le public n'est toujours pas autorisé à fréquenter les salles de concert? Et que faire devant des casse-têtes de programmation qu'il faut chaque jour recomposer?
Alors, pour répondre à la première question, effectivement, en 2015, on faisait à peu près une cinquantaine d'artistes locaux et régionaux. En 2019, ce chiffre était passé à 70. Donc on a continué notre progression d'accueil des artistes locaux, donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous et qui fait partie, qui est même voilà, un des fers de lance de notre projet. Donc effectivement, la crise sanitaire, ben, elle n'a pas aidé, hein, puisque tout s'est stoppé, tout est arrêté depuis presque un an maintenant. Ça n'a pas été facile de pouvoir relancer quelque chose, puisque pendant très longtemps, on a tâtonné, on attendait des réponses de l'État sur ce qu'on pourrait faire et pas faire. Est-ce qu'on pourrait redémarrer les concerts ou pas? Que pendant le confinement, on n'était même pas autorisé à accueillir des artistes en résidence ou de maintenir des répétitions. Ça nous a été autorisé qu'à partir de septembre. Et puis, le protocole sanitaire fait que aussi, voilà, la majorité des premières parties ont dû disparaître puisque fallait réduire au maximum le temps de présence des spectateurs dans les salles. Donc effectivement, cette crise, elle n'a pas aidé à la scène, elle n'a pas aidé au soutien de la scène locale. Les gens se sont retrouvés isolés, voilà, avec plus de liens, ne pouvaient plus travailler, ne pouvaient plus créer. Et puis ça s'est quand même quelque peu modifié, puisqu'à partir de novembre, sur le deuxième confinement, on nous a autorisé les résidents, plus de concerts. Et donc là, nous, on a vraiment mis à disposition nos deux salles pour accueillir des résidences d'artistes, des répétitions. On a sur novembre, janvier, février, là qui arrive. On doit avoir pratiquement une cinquantaine de jours mis à disposition pour des répétitions et des résidences, donc c'est pas mal, donc on continue ce soutien-là. Même si c'est pas toujours simple parce que les artistes peuvent créer, mais ils ont besoin d'avoir une visibilité sur quand est-ce qu'ils pourront montrer leur création. Et pour l'instant, ils n'ont pas cette visibilité-là. Donc c'est toujours un peu problématique de créer un spectacle. Et puis de se dire, est-ce que je vais pouvoir le montrer dans un mois, deux mois, six mois? C'est toujours un peu délicat, sachant que plus le temps s'espace entre la création et le fait de pouvoir la diffuser, plus ça devient compliqué et plus il faut retravailler entre les deux. Donc c'est vrai que cet inconnu-là ne facilite absolument pas les choses.
Cet exemple que je vais vous évoquer est le lot quotidien de toutes les structures accueillant des spectacles vivants à Nantes et dans toute la France. À savoir, quelqu'un ayant réservé une place pour le concert de Cat Power, par exemple, chanteuse américaine de punk, folk et blues, qui devait avoir lieu le vendredi 5 juin 2020, s'est vu proposer soit un remboursement, soit le report de cette place pour assister à ce concert qui a été reprogrammé au vendredi 4 juin 2021. La question de la reprogrammation est un problème quotidien. Comment vous y prenez-vous pour gérer ce type de situations qui se sont multipliées tout au long de l'année? Et où trouvez-vous l'énergie pour faire et défaire votre toile de programmation, telle une Pénélope, ne distinguant pas au loin le retour de son Ulysse?
Alors effectivement, c'est un peu notre lot quotidien, c'est compliqué. Alors on trouve l'énergie parce que la première fois qu'on fait et défait, on pense que ça va être la seule et unique fois. Et puis on s'aperçoit que finalement il y en a une deuxième et puis une troisième. Voire une quatrième certains, puisqu'on est déjà sur certains artistes à quatre reports. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a les concerts qui étaient déjà en vente, effectivement, et qui étaient complets. Et soit l'artiste a décidé de ne pas reporter, d'annuler sa tournée, et là, on rembourse. Soit, effectivement, l'artiste veut reporter et on maintient les dates en proposant, bien évidemment, le remboursement. Donc ça fait maintenant pratiquement oui trois trimestres qu'on fait des faits. Alors on a évolué hein, puisque au départ on faisait du dernier moment, on travaillait presque au jour le jour. Et puis le protocole qui est arrivé en septembre en disant c'est assez distancié, bah, c'est là-dessus qu'on a travaillé pour les quelques concerts qu'on a pu faire en octobre. Et les concerts qu'on avait programmés de janvier à mars et qu'on a tout annulé là de nouveau. A été aussi dans ce protocole de assis masqué distancié. Donc malgré ces précautions-là, voilà, on s'aperçoit qu'il faut encore redécaler. Donc certains s'annulent, d'autres se redécalent et se reportent. Alors nous, on a une facilité, c'est que nous ne travaillons pas avec des réseaux de billetterie extérieurs. Nous avons notre propre billetterie. Donc on ne travaille pas avec les Ticketnet, la Fnac, voilà, France Billet. Donc ça facilite les choses puisqu'on est en rapport direct avec nos acheteurs de billets. On ne fait pas comme certains grosses billetteries qui mettent des mois à rembourser, mais nous, quand on doit rembourser un spectacle, il est pratiquement immédiat. Et puis, on a un rapport direct avec les gens, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous poser des questions directement, on peut leur répondre, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas d'intermédiaire, et ça c'est une grande facilité pour gérer les choses sur les remboursements de billets et les reports de billets.
Oui.
Ça c'est une chose, mais c'est vrai que la deuxième chose, c'est qu'on aimerait avoir, je parlais tout à l'heure de lisibilité, et c'est quelque chose qui est le plus pesant en fait, c'est de pas avoir de visibilité. On aimerait que ce gouvernement puisse nous dire, vous rouvrirez début avril, début mai sans doute. Mais là, officiellement, on est fermé jusqu'au 25 février, par exemple. Nous, comme beaucoup de lieux, on a pris le parti d'annuler jusqu'à fin mars. Mais officiellement, le gouvernement nous dit, vous pouvez ouvrir vos lieux le 25 février, puisqu'il ne nous a rien dit d'autre, il ne nous a pas dit qu'on ne pouvait pas le faire. Donc il va sans doute communiquer 10 jours avant, comme il a l'habitude, pour nous dire, c'est repoussé jusqu'à fin mars, la fermeture. Et puis fin mars, mi-mars, on nous dira, c'est peut-être jusqu'à fin avril ou jusqu'à mi-mai. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune anticipation. Et le plus difficile, c'est ça, pour nous, mais aussi pour le public et puis évidemment pour les artistes.
Vous savez, comme nous, que les artistes vivent de plus en plus douloureusement cette période de crise sanitaire où ils ont le sentiment d'être littéralement bâillonnés, pour reprendre les termes utilisés par certains. Quelles solutions arrivez-vous à proposer ? Vous en avez déjà un petit peu parlé dans une réponse précédente. Donc, quelles solutions leur proposez-vous pour qu'ils poursuivent leur travail de création, hormis les deux grandes salles que vous leur donnez à disposition ?
Alors, nous, on a plusieurs. Effectivement, là, on a continué tous nos accueils de résidence, de répétition. Là, on a un planning calé jusqu'à fin mars et il est bien rempli. On va développer à partir de début mars aussi un peu de stream, c'est-à-dire qu'on va proposer à des artistes de venir faire des morceaux en live pour pouvoir les rediffuser. Donc ça, c'est quand même aussi une façon d'exister.
Oui.
À la fois pour la salle, en termes de com, de dire qu'on est encore là, qu'on a un lien avec les spectateurs, et puis surtout pour les artistes, évidemment, de dire que voilà, ils sont toujours là, qu'ils puissent montrer les nouveaux morceaux qu'ils ont fait, voilà, ce nouveau travail de création de spectacle, c'est donner l'occasion quand même à ces artistes de pouvoir le montrer. Donc on va, comme ça, sur le mois de mars, donner la possibilité à une dizaine d'artistes de pouvoir se produire sur la scène et être rediffusé en stream en direct. On a continué le travail dans les écoles, puisque c'est une des rares choses qu'on a été autorisé. Donc voilà, il y a quelques artistes qui vont continuer à faire du travail d'éducation dans les écoles, dans les collèges. Ils jouaient quelques concerts acoustiques aussi. Donc ça, c'est des choses qu'on a continuées. Alors c'est bien, il y a quand même quelques petits trucs qui existent, mais le principal, la diffusion et le rapport direct d'un artiste devant son public, c'est quand même ce qui fait quand même l'essence de nos métiers, et ça on ne l'a pas.
Roselyne Bachelot, ministre de la Culture depuis le 6 juillet 2020, est la troisième personne à occuper ce poste après Françoise Nyssen et Franck Riester depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron en mai 2017. Vous qui avez reçu de ce ministère le label national SMAC, scène de musique actuelle, quelles aides concrètes recevez-vous de la part du ministère pendant cette période de crise, si tel est le cas, et quelles sont vos attentes de soutien dans ce domaine à l'heure où on commence peut-être à parler de troisième confinement ?
Alors, on a, comme beaucoup dans la culture, on a l'impression effectivement que ce gouvernement n'est pas très motivé, la culture paraît vraiment un peu la dernière roue du carrosse pour eux. Nous a jamais donné vraiment le gage que ce gouvernement s'intéressait vraiment à la culture. On pense que c'est pas du tout le cas. Et cette crise-là, alors c'était le cas, ce sentiment-là, on l'avait avant la crise. Hein. Mais la crise, elle a accentué ça et surtout, elle nous a prouvé qu'effectivement, c'était un gouvernement qui n'était pas très intéressé par la culture. L'exemple même d'avoir nommé Franck Riester, qui est quand même un ancien vendeur de voitures qui ne connaît strictement rien à la culture, comme ministre, prouve bien le peu de considération que ce gouvernement avait pour la culture en général. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Après, le label SMAC, bien sûr, ce sont des aides financières. Chaque SMAC est aidé. Il y a via l'intermédiaire du CNM des des aides qui sont mises à disposition. Il y a eu le fonds de compensation qui ont permis à certains concerts d'exister en octobre. Alors pour l'instant, on espère que ça pourra être le cas aussi sur avril ou mai. Et de pouvoir compenser les jauges, puisque en assis distancié, évidemment, on pouvait vendre beaucoup moins de tickets d'entrée qu'en jauge normale. Et ce fonds de compensation permet de compenser cette perte financière. Donc ça, c'est quand même des aides qui ont été mises en place. Et puis, il faut le souligner, c'est des aides qui n'existent pas dans tous les pays. Il n'y a pas ce type d'aide en Italie, en Espagne, un petit peu en Allemagne. Mais ça, on va dire que c'est l'exception culturelle française. Et puis, tant mieux, heureusement qu'elle existe. Même si elle pourrait être encore un peu plus accentuée. Mais ce qu'on aimerait surtout que le gouvernement mette en place, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un vrai dialogue avec nous. C'est de nous dire où on va, qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, on a du mal à croire que le gouvernement, il ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire dans 20 mois ou deux, si on va pouvoir ouvrir ou pas. Je pense qu'ils ont une idée très précise, même si on est dépendant de l'évolution de la crise sanitaire. On pourra nous dire, voilà, on est sûr que jusqu'à fin mars, vous ne pourrez pas ouvrir. On espère qu'en avril, ce sera peut-être le cas, ou en mai, mais qu'on nous donne quelques échéances un peu plus précises, qu'on ait l'impression... C'est une impression qu'on n'a absolument pas, qu'on puisse avoir un vrai dialogue, un échange, et qu'on puisse nous indiquer, voilà, on ne peut pas, nous, organiser des spectacles à 15 jours, ce n'est pas possible, il faut un délai minimum de 2 mois. Et ça, on a l'impression que ce gouvernement, et même en tant que SMAC, n'en a pas, absolument pas pris compte de cette réalité-là chez nous. Et cet échange-là, et ce dialogue-là, il nous manque terriblement.
Et surtout en cette période où vous devez à tout prix continuer à poursuivre le lien avec les spectateurs pour que les spectateurs, d'une certaine manière, ne s'habituent pas à ce temps de silence.
Avec les artistes, qu'on puisse leur dire quand est-ce qu'ils pourront enfin présenter en live leur création. Voilà. Oui. C'est hyper important. Et cette visibilité-là, on ne l'a absolument pas. Alors, on est d'accord, hein, c'est pas simple. Je ne pense pas que personne ne sait dans quel état... quel sera l'état de la crise sanitaire dans 2 mois ou 3 mois, mais on pense quand même qu'on pourra avoir une visibilité de temps un peu plus que ce delta de 15 jours,
oui.
Qui est pour nous juste invivable en fait.
Et à force de masquer tout le monde, finalement, il y a un essoufflement en général qui semble se mettre en place, indéniablement.
C'est ça, et on aimerait juste effectivement un peu plus de... Alors cette visibilité-là, voilà, on la prend comme un manque de respect, un vrai vrai manque de respect. Et malheureusement, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité et de la réalité.
Bien. Même si le silence demeure dans la salle micro de 400 places et dans la salle max de 1200 places de Stéréolux, vous continuez à offrir un peu de rêve aux spectateurs avec la 5e édition de la Nuit Blanche des chercheurs en lien avec l'Université de Nantes qui a lieu ce soir, jeudi 11 février 2021 à 18h en direct sur le site de Stéréolux. Le thème de cette année est l'imprévu. Alors cela ne s'invente pas.
Non.
Et j'ai envie de vous demander, vous, face à l'imprévu...
C'est prémonitoire, oui.
Oui. Vous, face à l'imprévu, quelle est votre philosophie ?
Ben, c'est compliqué face à l'imprévu. Notre philosophie, on aimerait bien qu'elle soit positive et enthousiaste. Mais c'est vrai que depuis un an, on alterne entre découragement et espoir, malheureusement. Et c'est pas tant de encore une fois, d'être fermé parce qu'il est logique qu'il y ait un soutien aux gens les plus fragiles et puis à la saturation des hôpitaux. On en est bien conscient. On voudrait surtout pas avoir cette inconscience-là. Mais voilà, l'imprévu, il est compliqué à gérer à 15 jours. C'est ça qui est le plus dur. Alors bon, voilà, la philosophie, c'est qu'on va dire qu'on espère. On espère que c'est pour bientôt. Et puis on espère aussi que cette crise-là va aussi changer la donne du tout consumérisme, va redonner... à remettre en avant quelques notions de solidarité, solidarité entre lieux, les solidarités entre artistes, les solidarités entre lieux, spectateurs et artistes. Voilà, on va dire que si on veut finir par une petite note positive, on va pouvoir parler comme ça.
Et remettre l'enthousiasme dont vous parliez tout à l'heure au centre du questionnement.
Ouais, les espoir de que tout ça va pouvoir revenir à la normale, même si, encore une fois, l'idée, c'est pas forcément de revenir totalement à la normale, mais c'est aussi de tirer les leçons de tout ça et puis de retrouver une totale liberté, mais en gardant comme moteur principal ces termes-là, qui sont quand même pas des termes galvaudés, de solidarité c'est des notions assez importantes, ouais, et d'éviter cette espèce de grande mondialisation aussi qui était des fois devenue le secteur de la nuit.
Un très grand merci à vous, Jean-Michel Dupas, pour ce temps passé en votre compagnie. Nous espérons grandement retrouver le plus vite possible les chemins de Stéréolux pour le plus grand bonheur de tous et de toutes. Et en attendant, vous pouvez vous connecter, chers auditeurs et auditrices de Prune 92 FM, sur le site stereolux.org afin de suivre les ajustements quotidiens de la programmation de ce lieu. Au revoir, Jean-Michel Dupas.
Au revoir.
Merci Jean-Michel Dupas pour nous avoir accordé ce temps d'interview dans votre emploi du temps bien bousculé dans cette période si compliquée pour le spectacle vivant, à l'arrêt depuis trop longtemps. On attend tous et toutes avec une très grande impatience la réouverture de Stéréolux et d'autres lieux de création et de diffusion de spectacles de la scène nantaise. Pour information, le Printemps de Bourges se tiendra cette année du 4 au 9 mai 2021 et connaîtra pour la seconde année consécutive une forme bien particulière.
Regard pluriel avec l'invité surprise d'Ophile Desson.
Aujourd'hui, nos invités surprises sont étudiants et étudiantes au lycée Talensac de Nantes en BTS SAM première année. Ils travaillent cette année sur l'univers radiophonique et se sont essayés à l'écriture de chroniques et d'interviews. On les écoute.
Merci à vous quatre, Vincent dans le rôle de l'animateur et Émilie, Esteban et Éléonore pour leur chronique engagée.
Bienvenue sur Radio Prume 92 FM, dans l'émission Au fil des sons. Aujourd'hui, dans la rubrique Invité surprise, nous donnons la parole à des étudiants et étudiantes de BTS SAM première année. SAM étant l'acronyme de support à l'action managériale. Les étudiants et étudiantes de cette section ont eu la chance de participer à différents ateliers portant sur l'univers radiophonique, ce qui leur a permis de se familiariser avec deux types d'écrits radiophoniques que sont la chronique et l'interview. Tout d'abord, nous allons donner la parole à Émilie De Wolf, qui va nous parler des bienfaits de la musique.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer aujourd'hui à l'émission Au fil des sons pour vous parler, comme vous l'a dit Vincent, des bienfaits de la musique. Tout d'abord, j'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Si ce n'est pas le cas, je vais tenter de vous insuffler un peu d'évasion. Peut-être, tout comme cela est mon cas, rêvez-vous d'être en vacances pour bronzer sur votre transat en écoutant les tubes de l'été? Ou voulez-vous être plutôt en mode cocooning pour écouter des chansons de musique classique? Mais peu importe, quoi qu'il en soit, vous êtes sensible au fait que chacune des musiques que nous écoutons ont cette force de procurer différentes émotions. Dans tous les cas, même si vous ne vous êtes jamais fait cette remarque, on va le prouver ensemble. En effet, chaque musique contient sa propre émotion. Ainsi, vous ne sentirez pas la même sensation si vous écoutez... Ou si vous écoutez... Vous, qui comme moi, empruntez quotidiennement les transports en commun, vous avez sûrement remarqué le nombre faramineux des gens qui mettent de plus en plus leurs écouteurs. Moi la première. Cela permet au temps du trajet de passer plus vite, tout en écoutant des musiques que l'on aime, mais aussi car elles nous procurent de nombreux bienfaits comme de la motivation, de la bonne humeur et de la joie. Se faire plaisir, mettre mots liés à la musique. Imaginez, vous avez passé une longue journée bien chargée et la seule chose que vous souhaitez, c'est de vous détendre. Eh bien, vous lancez un de vos tubes du moment dans vos écouteurs, dans la voiture ou sur une enceinte en Bluetooth et vous oubliez tout. Voilà le premier bienfait, c'est de tout oublier le temps de quelques rythmiques et de paroles que l'on chante ou que l'on écoute à notre aise. Un autre bienfait, c'est la joie. La musique est l'une des raisons qui va nous pousser à sourire et à danser et c'est elle qui va nous accompagner pour cela. Elle va nous permettre d'extérioriser tout ce que l'on ressent. Et rien de mieux que de danser sur le hit de l'été. Si vous êtes chez vous, je vous conseille de pousser les tables et de vous laisser aller avec ce qui suit. Et votre plus beau déhanché, bien évidemment. Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita. Vous êtes encore avec nous? Je l'espère, car nous n'avons pas fini d'explorer les bienfaits de la musique. Comme vous le savez sans doute, la nostalgie fait partie intégrante des bienfaits de la musique. Réécouter un son latino que l'on a entendu lors de notre dernier voyage peut déclencher un souvenir magique et envoûtant, telle une réminiscence proustienne avec sa madeleine. Et oui, se rappeler le soleil, la chaleur, les palmiers et les vacances nous rend mélancoliques quand on sait que les prochaines sont lointaines et qu'il pleut depuis 3 jours. Mais ce n'est pas fini, la musique nous rend énergiques. Vous allez être d'accord avec moi, mesdames et messieurs. La musique nous aide à faire le ménage avec plus d'entrain. Et cela, ce n'est pas nouveau. Alors quoi de mieux que de faire, et cette fois-ci je m'adresse à vous messieurs, quoi de mieux que de faire les tâches ménagères avec un son pour nous motiver ? Enfin, le dernier bienfait, et cela va sans doute vous étonner, car ce ne semble pas être un bienfait, c'est de nous attrister.
Vraiment ?
Eh oui, parfois nous n'avons pas envie de sourire quand l'on se sent triste, et donc on ira plutôt écouter des chansons qui vont davantage nous attrister. Et vous savez pourquoi cela fait partie des bienfaits, Vincent ?
Non, dites-nous, cela m'intrigue.
Eh bien, c'est parce que cela nous permet de rester dans notre mood, comme disent les jeunes, c'est-à-dire que cela nous plaît d'écouter de la musique qui nous convient au moment même, de rester dans ce sentiment de tristesse. De ce fait, c'est du réconfort que la musique nous apporte à ce moment-là. Voilà, maintenant les bienfaits de la musique n'ont plus aucun secret pour vous et vous aurez appris qu'elle nous accompagne dans n'importe quelle circonstance. J'espère que cette chronique vous aura fait voyager intérieurement à la rencontre de vos sentiments et de vos émotions. Bonne fin de journée à toutes et à tous.
Merci à vous, Émilie, pour cette récréation musicale. Donnons maintenant la parole à Esteban. Bonjour Esteban, vous aimez particulièrement ce qui prête à la polémique et c'est pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui.
Bonjour Vincent, je voudrais attirer l'attention des auditeurs de Radio Prune sur un sujet assez polémique en ce moment et saisir l'occasion de ce billet d'humeur de ce jeudi midi pour traiter d'un sujet qui fait beaucoup parler et qui peut potentiellement intéresser les auditeurs de la radio et plus particulièrement les fans du rap français. Je veux parler de l'événement Freeze Corleone. Comme vous le savez peut-être déjà, il y a quelques mois, un scandale sur des paroles jugées provocantes est survenu.
Mais qui est donc ce Freeze Corleone ?
Originaire de Seine-Saint-Denis, il exerce la profession de rappeur depuis de nombreuses années. Cet artiste de rap, au cœur de la polémique, propose avant tout des textes millimétrés, provocateurs et une ambiance sombre, comme on l'entend avec cet extrait de son projet Blue Dream, sorti en 2018.
Comme un gueuche de coq, gratte des lignes de ouf. Quand c'est négro, j'arrive chinois sur le terrain, je me sens comme Jérémy Lin de ouf. Fonce à fond, la bitch me regarde, chez quel con ça fond.
Mais voilà, le 11 septembre 2020, Issa Lorenzo, sous le pseudonyme de Freeze Corleone, a sorti son album nommé La Menace Fantôme. Cet album, attendu par ses fans, a surtout fait réagir de nombreuses personnalités politiques, notamment le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Avec un tweet mettant en cause le rappeur, je cite, « d'apologie du nazisme et d'antisémitisme » pour des passages provocateurs dans ses musiques, comme dans cet extrait dès le début de son album.
SBC, j'arrive chinois comme la HSBC. Quand rentre, ça sent la loud dans le lobby. C'est sur la sec chaque jour, j'aurai rien sans le lobby.
Ou alors, un peu plus loin dans l'album, avec une référence au 11 septembre 2001, 19 ans après les faits.
Comme des Ariane. 667, fraternité comme des Ariane. On les fouette de ouf comme des négriers.
Depuis, un déferlement de répression sur l'artiste est à constater sur Universal, Deezer et bien d'autres structures qui répriment l'artiste en masse. Et c'est ceci qui m'indigne. Tous les médias évoquent le fait, mais strictement aucun ne laisse la parole au principal concerné. Dans le pays du « je suis Charlie », finalement, la liberté d'expression n'est pas réellement respectée. D'autant plus que les personnes ne donnent la parole à l'artiste. Alors oui, les textes du rappeur sont provocants, voire choquants, mais laissons Lorenzo s'exprimer, donnons-lui les moyens de se défendre. Bref, j'espère que tous les auditeurs auront compris mon message. Je vous souhaite un bon jeudi.
C'était Esteban et son regard brûlant sur les travers du rap. Bonjour Éléonore. Alors, la musique est-elle un tremplin pour dénoncer ? Mais pour dénoncer quoi ? Mais pour dénoncer qui ?
Il est bien connu que l'homme ne cesse d'infliger le mal autour de lui. Alors faut-il subir ce mal ou bien alors agir pour lutter contre les injustices du monde ? Cela ressemble à un vieux cours de philosophie, me direz-vous, mais aujourd'hui rien de cela. De nos jours, il est compliqué de se faire entendre pour changer les mots de la société. C'est pourquoi de nombreux artistes choisissent la musique comme tremplin. En effet, un artiste engagé a pour but de relever la réalité, de témoigner et de dénoncer, tout en transmettant un message d'espoir. Convaincre les gens d'adhérer à une cause, défendre des valeurs, mettre en garde contre l'oubli, comme rendre hommage. Voilà leur but. En diffusant leur voix, ils parviennent à éveiller un esprit critique chez l'auditeur, car s'engager, c'est revendiquer, affirmer ses idées et inciter les autres à les adopter. Que cela se fasse avec un registre satirique, militant ou encore contestataire, ce type de musique se nomme les chansons engagées. De plus, la musique est une manière originale de dénoncer. Elle permet de faire réfléchir et de faire prendre conscience des problèmes de la société de manière agréable. C'est une arme qui est écoutée et inconsciemment enregistrée. Donc oui, la chanson est efficace pour dénoncer et faire réagir. C'est pour cette raison que certains artistes utilisent la musique pour véhiculer leurs idéologies. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de trois artistes engagés chacun à leur façon et pour des causes différentes. Ce sont Boris Vian, le groupe Trio, puis Angèle. Tout d'abord, Boris Vian, dans sa chanson poème « Le déserteur », cherche à convaincre les individus d'adhérer à son idéologie, celle que la guerre ne devrait pas exister. Il prône dans sa musique le droit de refuser de partir au front. Ce texte, très vindicatif, a suscité de nombreuses polémiques. Boris Vian conteste les politiques militaristes et proteste contre les guerres colonialistes, en exprimant un seul message « La guerre est une souffrance pour tous ». Cette chanson est devenue l'hymne des pacifistes. Boris Vian a mis son art au service de cette cause, la concorde et la paix dans le monde. Nous allons écouter un extrait de l'œuvre.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens.
De plus, le groupe Trio rend dans sa chanson « Charlie » un hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo. Cette tragédie a eu lieu le 7 janvier 2015 à Paris. Ils ont décidé d'écrire une chanson afin de prôner la liberté d'expression et de dénoncer les atrocités qu'avaient commis les terroristes. Le prétexte de ces tueurs était que nul n'a le droit de représenter leur dieu en dessin. Dans cette chanson engagée, l'artiste choisit de toucher la sensibilité de son auditeur pour dénoncer et de promouvoir les libertés françaises.
Le monde a changé, Charlie, c'est ce qui t'a tué. Charlie, c'est pas Mahomet. C'est juste des enragés, Charlie. La France a pleuré, Charlie. Mais ta liberté, chérie, elle est immortelle. Tu la vois du ciel. Le monde est cruel, mais la vie est belle. On a tué ta fille, Charlie. Mais pas tes idées.
Trio pousse dans cette chanson les gens à rester forts et ne pas avoir peur malgré la tragédie qui s'est passée. Dans cette chanson d'hommage, il y a à la fois beaucoup d'espoir et d'amour. D'ailleurs, le procès des attentats de Charlie Hebdo a eu lieu en décembre dernier. Enfin, j'ai choisi de vous parler d'une artiste engagée comme Angèle, avec son titre « Balance ton quoi ». Un hit qui dénonce le sexisme. Sa chanson un peu comique mise sur l'autodérision et vient marquer l'auditeur. L'humour utilisé dans ce texte permet d'ouvrir les yeux sur certaines scènes que vivent tous les jours les femmes. Elle choisit le gros texte, le cliché, afin que les gens se rendent compte de la lourdeur que peuvent avoir parfois les hommes à l'égard des femmes.
Mais quel est le secret de la réussite de sa chanson ?
Sûrement le choix de ce refrain entêtant qui reste dans toutes les têtes et qui se lit sur toutes les bouches. Et tu vois, Angèle, finalement, tu passes à la radio.
Laisse-moi te chanter, aller te faire un mmh. Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire un mmh. Balance ton quoi.
Néanmoins, les propos de ces derniers temps accusant son frère d'agression sexuelle vient quelque peu entacher sa cause. On l'a donc vu, la musique est bien un tremplin pour dénoncer. Dans le milieu musical, l'engagement est fréquent. L'artiste dispose d'une certaine liberté pour parler de causes qui lui tiennent à cœur. La musique permet alors parfois de pouvoir changer les choses et de donner de l'ampleur à certaines causes. Maintenant que je sais que la musique permet de dénoncer de manière active, je vais peut-être me mettre à chanter. Affaire à suivre.
Merci à vous, Éléonore, et tenez-nous au courant si vous vous mettez à chanter.
On vous souhaite donc une très belle après-midi à vous, chères auditrices et auditeurs de Radio Prune.
Merci Anna de leur avoir proposé cet exercice et merci à Constance de Radio Prune pour ces ateliers découvertes de l'univers radiophonique qui ont été pour certains une véritable révélation à revivre.
Le coup de cœur du mois d'Anna et Sylvia.
Notre coup de cœur est l'œuvre de Louise Bourgeois, l'araignée créée par la plasticienne franco-américaine en 1999. Maman, c'est le nom que Louise Bourgeois a donné à son œuvre, a d'abord été en inox pour devenir en bronze et ainsi s'exposer plus facilement au plein air. Elle se pose provisoirement dans différents lieux comme Ottawa, Bilbao, Tokyo, Paris, à Beaubourg. Et à noter que l'artiste est actuellement exposée au Serralves Museum de Porto, au Portugal, et ce jusqu'au 21 juin 2021. Son araignée rassure, effraie, inquiète, et pourtant Louise Bourgeois la voyait comme sa maman, bienveillante, tisseuse, travailleuse, soigneuse, éliminant tous les parasites. Une maman protectrice à l'égard de ses enfants, et qui peut malheureusement ne pas suffire pour les protéger des prédateurs.
Louise Bourgeois fait de l'art une thérapie pour surmonter ses traumatismes, en plus de celles qu'elle suivit pendant une trentaine d'années. Face à l'araignée, elle a sculpté un phallus, emblème du masculin, de ce père qui trompa sa mère avec sa gouvernante et enseignante d'anglais. On voit encore une fois que l'art permet de dénoncer ce que les mots taisent. Au-delà de ses œuvres, retenons son engagement féministe qui lui venait sans doute de son prénom, choisi par sa mère en hommage à Louise Michel, figure de proue de la Commune de Paris, comme elle aimait à le réitérer. Elle participe dans les années 70 à des expositions militantes organisées par le MLF, Mouvement de Libération des Femmes, mais ne se revendique pas comme féministe. Retenons ces quelques mots.
Si vous ne pouvez vous résoudre à abandonner le passé, alors vous devez le recréer. C'est ce que j'ai toujours fait.
Belle philosophie à suivre pour dépasser l'inacceptable.
N'oublions pas la thérapie psychanalytique capable, elle aussi, de nous guérir. Et à ce propos, on vous recommande de regarder la série En thérapie d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache, diffusée sur Arte le jeudi soir ou sur arte.tv.
Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Au fil des sons, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous tenions à remercier Jean-Michel Dupas, Émilie, Esteban, Éléonore et Vincent pour le temps qu'ils nous ont consacré. Et bien sûr, un très grand merci à Jean-Pierre, à la réalisation, sans qui cette émission n'existerait pas, et également à toute l'équipe de Prune 92 FM. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur www.prune.net.
On se retrouve le jeudi 11 mars 2021 de 13h à 14h pour une nouvelle émission de Fil des sons, qui sera cette fois-ci consacrée à l'univers des sons et des bruits qui nous font du bien, ces bruits et ces sons qui nous manquent terriblement pour le moment, sur Prune 92 FM et en DAB+, sur Saint-Nazaire. À suivre la playlist. Bonne journée à tous.